Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
8h43, vous savez qu'à ce moment-là de l'émission, on a besoin de vous, 0826 300 300 pour réagir sur cette actualité, l'actualité de ce policier qui a été tué par balle hier à Avignon, entre autres, et ce dont vous avez envie de nous parler, 0826 300 300, avec Françoise Degoy et Eric Revel dans un instant, mais en attendant, on fait une revue de presse avec Benjamin Glaise.
Oui, et puis un titre choc, qui est en lettres majuscules, à la une de la Provence ce matin, mon cher Benjamin.
Ben oui, Cécile en parlait à l'instant, ce drame à Avignon, ce policier tué lors d'un contrôle anti-stupéfiant dans le centre-ville. Un agent du groupe départemental d'intervention qui était âgé de 36 ans, père de deux enfants. Il a été mortellement blessé par plusieurs coups de feu hier soir vers 18h30. Mmh. Depuis, d'importants moyens ont été déployés pour traquer le dealer qui a tiré sur ce policier. Mais pour l'heure, l'individu est toujours en fuite. Et c'est dans ce contexte hasard du calendrier que revient la question de la légalisation du cannabis aujourd'hui. C'est la une du Figaro. Légalisation du cannabis, un sujet qui divise la majorité. Alors que l'exécutif affiche une grande fermeté dans sa lutte contre le trafic de stupéfiants, un rapport parlementaire soutenu par des députés d'En Marche propose de légaliser le cannabis. Ce chiffre, aujourd'hui en France, il y aurait 1 million d'usagers quotidiens. Le rapport lui dénonce l'échec de la politique actuelle ainsi que l'hypocrisie de la fermeté affichée sur le sujet. Il défend notamment comme solution une légalisation réglementée du cannabis.
Oui, c'est vrai. On en a beaucoup parlé hier matin puisque nous recevions ici l'une des députées avec Jean-Baptiste Moreau, effectivement, qui défend Caroline Janvier. Oui. Un spectre que l'on croyait oublié à la une de Corse Matin aussi, le FLNC, la menace d'un retour à la lutte armée.
Et le Front de Libération Nationale Corse qui fait son retour, critiquant l'action de l'actuelle majorité à la tête de la collectivité territoriale de Lille. En l'occurrence, alors, il s'agit d'un nouveau groupe armé qui a annoncé sa création. Suite à cela, la procureure d'Ajaccio a indiqué qu'une enquête allait être ouverte et que le parquet national antiterroriste avait été, je cite, avisé.
Ah oui.
Du côté du Parisien aujourd'hui en France, le tueur en série Michel Fourniret en une avec ce titre sous forme de question, les 35 ADN vont-ils parler? Autant d'empreintes génétiques retrouvées sur un matelas ou dans le véhicule du tueur qui sont actuellement en cours de rapprochement éventuel avec des disparitions, des meurtres non élucidés. Rappelons que Michel Fourniret a déjà été condamné dans 8 affaires et mis en examen dans 4 autres.
Oui, et puis on poursuit avec l'épidémie de Covid tout de même. Et la Dépêche du Midi qui note, comme beaucoup de journaux d'ailleurs, début de baisse.
Hein. Oui, à 2 semaines de la prochaine étape du déconfinement, la situation globalement s'améliore en France, mais attention, les hôpitaux restent surchargés de maladies du Covid et des experts sanitaires s'inquiètent toujours d'une réouverture qui pourrait être prématurée. En tout cas, c'est ce qu'on peut lire dans la Dépêche du Midi. Et puis de la crise sanitaire, la crise politique, cette fois-ci la une de Nice matin, avec le coup de Trafalgar du maire de Toulon, Hubert Falco, qui quitte le Parti des Républicains. Énième épisode de l'affaire Renaud Muselier, peut-être pas le dernier, car Nice matin se pose maintenant la question de savoir ce que va faire le maire de Nice, Christian Estrosi.
Oui, LR en rade, voilà, c'est ça. Merci à vous, mon cher Benjamin Glaise. On va en reparler dans un instant avec ces deux batailles, au sud et au nord. Au sud, donc, avec Muselier et puis ce feuilleton, l'REM. Et au nord, également, on en parlait tout à l'heure avec Adrien Quatennens, qui était notre invité politique dans les Hauts-de-France, avec Dupond-Moretti, qui pourrait y aller, avec Marine Le Pen, qui va y aller également au départemental. Xavier Bertrand, bien sûr, qui est là-bas. On en parlera avec Éric Revel et Françoise Degoy dans un instant. Et on reviendra aussi, bien sûr, sur ce que vous évoquiez tout à l'heure, ce drame d'Avignon tout à l'heure à 8h. Avant cela, on poursuit notre tour de France. C'est jeudi et puis ce sont les magazines qui sont en kiosque, notamment Le Point. Étienne Jarnel, son directeur, est avec nous. Bonjour Étienne.
Bonjour.
Avec une longue interview d'un certain Nicolas Sarkozy. La France et son passé.
Oui, parce qu'il revient, et c'est ça qui est intéressant, sur les sujets qui nous agitent et qui fâchent aujourd'hui. La repentance, par exemple. Alors, on parle de Napoléon beaucoup ces jours-ci, mais il parle énormément du Rwanda, qui est un sujet extrêmement polémique. Il y tape un peu d'ailleurs sur Mitterrand et sur Védrine à l'époque. Et il dit, lui, l'aveuglement de la France et sa responsabilité, non pas sa complicité, mais sa responsabilité. À l'inverse, sur l'Algérie, il dit, non, on peut pas dire que la colonisation était un crime contre l'humanité, une faute, mais pas un crime contre l'humanité. Bref, il revient sur tous ces sujets, on voit bien que c'est un peu aussi le cœur du débat aujourd'hui. C'est la relation de la France avec elle-même, comment elle se voit, est-ce qu'elle est fière d'elle-même, dans quelle mesure, est-ce qu'elle arrive à regarder son histoire en face. Et Sarkozy parle de tout ça, puis du wokisme, vous savez, du racialisme, du colonialisme, c'est très intéressant. On voit qu'il a beaucoup réfléchi à la question.
Oui, parce qu'il dit qu'il faut en finir avec cette présentation fausse selon laquelle le blanc serait par définition raciste.
Ben oui, puis il prend l'exemple du Rwanda, le Rwanda, oui. Le génocide des Tutsis. Au Rwanda, c'est un projet raciste. Et en l'occurrence, c'est pas un projet raciste blanc. Donc, il connaît très très bien cette histoire du Rwanda, qui est d'ailleurs très instructive, mais très émouvante pour qui connaît un peu le sujet, très remuante. Et il a une vision assez lucide des choses, sur tous ces sujets-là, il distingue. Il apporte une vision assez apaisée, c'est l'intérêt des anciens présidents aussi. Vous savez, ils ont à la fois l'expérience, et puis ils sont un peu moins dans le feu de l'action, il n'y a pas de clientèle à fêter.
Oui. Bon, il y a une question forcément qui lui est posée. Un an avant la présidentielle, quel regard il porte sur la situation politique du pays? Il dit « no comment hein, », pas de commentaire, puisque je me suis retiré de la vie politique. Hein. C'est ça, c'est-à-dire qu'il ne veut plus y participer, selon vous, ou pas?
Il y participe. Il ne veut pas y participer publiquement. Ouais. Mais évidemment qu'il est là, évidemment qu'il s'intéresse, évidemment qu'il a un avis. Il s'inquiète, ça c'est la seule chose qu'il dit, de la tournure des débats médiatiques où la pensée la plus outrancière devient la seule audible. Mmh. Ça c'est une vraie vraie question qui se pose à nous tous dans le débat public. Mmh. Et voilà, alors après, sur la politique politicienne, penser qu'il s'en désintéresse est absurde. Évidemment, il connaît tout le monde, il s'y intéresse de très près, il ne veut pas prendre position pour l'instant.
Ouais, mais parce que quand il dit, en terminant cette interview hein, dans Le Point mené par Jérôme Béglé, en fait, notamment, hein. Je souhaite de tout cœur que ceux qui sont en charge du pays ou qui participent dignement au débat politique trouvent ce chemin. Dans le cas contraire, je crains que notre avenir ne soit sombre. Et, sous-entendu, finalement, il soutient un peu Emmanuel Macron, qui est au pouvoir, non ?
Le soutenir, je ne sais pas si on peut aller jusque-là, mais ce qui est sûr, c'est qu'il a de... Il a, je pense, de la sympathie pour lui, et il a des désaccords, très clairement, mais il n'est pas dans l'opposition systématique, et dans la, comment dire, dans le Macron bashing, pas du tout. Il regarde les choses attentivement, et puis il regarde son côté présent, puis on voit bien d'ailleurs qu'il n'est pas le seul à droite à considérer qu'il est Macron compatible. Hein, alors on l'a bien vu en PACA, voilà.
Oui, on va en parler dans un instant. Merci Étienne Jernel. Au passage aussi, il y a une interview de Carlos Tafares et puis le patron de Stellantis, hein, bien sûr.
Ouais, et l'édition ville, c'est Toulouse aussi. Hein, on a des éditions ville, c'est très important.
Ah oui, non mais ça c'est vrai. Vous avez raison. Oui, à chaque fois, il y a toujours...
avec une interview d'Estrier d'ailleurs qui est particulièrement intéressante sur la culture et Toulouse, comment elle se réinvente.
Ouais. Comment elle se réinvente, oui, bien sûr. Merci Étienne Jernel d'avoir été avec nous ce matin en direct sur Sud Radio.
Et on continue le petit déjeuner de l'actu. Françoise Degoy, Éric Revel, vos appels comme tous les matins, 0826-300-300. On parle d'arrêt régional, on parle effectivement de ce policier qui a été abattu hier à Avignon.
Oui, absolument. On en parlera dans un instant. Et puis on aura aussi Christine Bouillot en ligne tout à l'heure aussi après 9h pour revenir sur ce qui s'est passé du côté de Mérignac avec cette personne quand même qui n'avait pas de bracelet. On aurait pu, quand il y a eu une nouvelle plainte, enfin bon, on va y revenir dans un instant. Mais Éric Revel, Françoise Degoy, Éric Revel, vous vouliez réagir à l'édito de Françoise Degoy tout à l'heure, là, qui disait Macron dynamite encore un petit peu plus, après l'avoir fait à gauche, dynamite un petit peu la droite, que ce soit en PACA, et aujourd'hui la menace d'envoyer Dupond-Moretti dans les Hauts-de-France, quoi. Éric ? Ah, on a un petit souci.
Est-ce qu'Éric est avec
ligne, vous avec... Je vous entends.
Oui, ah ben voilà.
J'ai trouvé très intéressant l'intervention d'Étienne Jernel. Oui. Et j'ai trouvé remarquable l'édito ce matin de Françoise.
Oh, super.
J'aurais juste complété avec une conclusion qui m'est propre, évidemment. Oui. C'est de dire, mais alors, La République En Marche est peut-être en panique. Parce que dans le Sud, rappelez-vous, La République En Marche voulait s'allier à Renaud Muselier pour faire échec à Thierry Mariani et au Rassemblement National. Mmh. Et dans le Nord, Éric Dupond-Moretti, il va pour faire battre Xavier Dupont... Xavier Bertrand, pardon.
Ouais.
Et au risque de faire triompher le Rassemblement National.
Bien sûr.
Donc je me demande si La République En Marche n'est pas un peu en panique. En tout cas, sa stratégie politique me paraît incohérente.
Ouais. Est-ce qu'elle a une stratégie?
Oui, si, la stratégie d'Emmanuel Macron, elle est d'un cynisme absolu. Parce que si on va... D'abord, merci Eric, ça me touche que ça vous ait plu.
C'est de la politique.
Non, c'est de cynisme pur. Mmh. C'est-à-dire que c'est comme rarement atteint. C'est-à-dire que Emmanuel Macron, je suis d'accord avec Éric Revel, ne catapulterait pas Éric Dupond-Moretti pour gagner dans les les Hauts-de-France. Éric Dupond-Moretti ne peut pas gagner dans les Hauts-de-France. Non. C'est inimaginable. Et il ne le fait pas pour ça. Il veut faire battre Xavier Bertrand. Et comme il est en train de faire gagner Xavier Thierry Mariani, évidemment, dans le Sud-Est. Évidemment que la droite du Sud-Est, elle est assez particulière. Éric le sait très bien. Et puis, Thierry Mariani, voilà, il est tout à fait... il vient de l'UMP, c'est une figure de droite, c'est pas une figure qui fait peur, etc. Mais je pense que le calcul fondamental d'Emmanuel Macron, il se dit de toute façon, soit ça marche et je dynamite et j'arrive à avoir quelques petits morceaux et je peux dire que j'ai pas perdu les régionales. Et si ça marche pas, c'est pas grave. Marine Le Pen, deux régions, ça accentuera d'autant plus la peur Rassemblement National pour ma campagne présidentielle. Je pense que le calcul profond, c'est celui-là. C'est je joue sur les deux tableaux. Si ça marche, tant mieux, je fais exploser la droite, mais si ça marche pas, eh bien, on a une Marine Le Pen qui sera, à mes yeux, encore plus dangereuse, alors que c'est là que je pense qu'il se trompe. Oui. Marine Le Pen, qui arriverait à gagner deux régions, serait institutionnelle. Ça ne serait jamais arrivé pour le Rassemblement National, et je pense qu'elle assiérait encore plus profondément sa force. Oui. Madame Macron fait un calcul arrogant, en fait. Arrogant et cynique.
Éric, d'un mot ?
Oui, bah, c'est un drôle de coup de poker. C'est un coup de poker extrêmement risqué, mais Emmanuel Macron est un joueur. Maintenant, est-ce qu'on peut jouer avec la politique ? C'est un vrai sujet. Ça prouve aussi que Emmanuel Macron prend très au sérieux la candidature de Xavier Bertrand, qui est à 15-16% dans les sondages. Quand vous voyez le nombre de candidats potentiels, on verra à l'arrivée, notamment si la gauche s'unit ou pas, c'est mal parti, mais enfin on verra. Ça veut dire que la barre du second tour, elle va se jouer à 17-18 points. Souvenez-vous que Jacques Chirac avait passé, lors de sa première élection, le premier tour avec 19-62% des intentions des votes, si je me souviens bien. Donc ça veut dire que la barre, pour être qualifié au second tour, va être relativement basse. Et donc, pour moi, c'est aussi le révélateur qu'Emmanuel Macron craint beaucoup cette candidature de Xavier Bertrand. D'ailleurs, vous aurez noté peut-être dans le Sud, puisque Françoise en parlait, que Éric Ciotti, qui incarne la droite de la droite des Républicains, donne l'impression, plus que l'impression, d'apporter son soutien à Xavier Bertrand. Donc il est en train de se passer quelque chose. La recomposition politique que souhaitait depuis son élection Emmanuel Macron est en marche, mais elle est en marche avec peut-être une scission des Républicains, non pas dans la structure, parce qu'on ne voit pas les Républicains exploser en vol. Donc ça veut dire qu'il va y avoir une recomposition politique lors des votes chez les Républicains, et qu'à ce petit jeu-là, Emmanuel Macron n'est pas certain de l'emporter, d'où ce coup de poker politique, qui est pour moi, hein, mais qui est une sorte d'aveu de faiblesse.
C'est allez, 0826 300 300, c'est Julien qui est avec nous au téléphone, 0826 300 300. Bonjour Julien.
Bonjour.
Bonjour. Vous vouliez réagir sur quoi dans l'actualité ce matin ? Justement sur cette bataille politique. On avait Adrien Quatennens qui était avec nous aussi tout à l'heure à 7h40. Ouais.
Moi, je voudrais réagir surtout à l'actualité de ce policier qui était tué à Avignon, parce que moi-même, je suis policier dans l'Essonne. C'est pour ça que j'appelle d'ailleurs, parce que j'ai quelques précisions à apporter. Ouais. Déjà, je peux que soutenir les proches de ce collègue-là. Je peux que m'identifier à lui. J'ai entendu dire que c'était un collègue qui était motivé, qui était sportif. Toute sa famille était policier. Donc, je peux m'identifier à lui. Cependant, j'entendais ce matin que vous receviez un député de la France Insoumise.
Oui, Quatennens, Adrien Quatennens.
Voilà, pour citer vos précisions. J'entendais ce matin qu'on a la politique la plus ferme en matière de stupéfiants. Alors ça m'a fait doucement rigoler, parce que ça fait là ce qu'on a eu ces derniers temps, c'est le résultat de l'échec de nos gouvernants depuis 30 ans. C'est une catastrophe. Alors on dit oui, mais on est très répressif. Et tout ce qui se passe à chaque fois, c'est qu'on interpelle les mêmes personnes, les mêmes dealers, et ils sont remis dehors le lendemain, tous les jours. Tous les jours, alors on peut interpeller tout le monde sur les points de deal, si on les remet demain sur la voie publique, le problème restera le même. Et quand on envoie, en plus, j'étais sur la manifestation de mes collègues, la brûlée à Viry-Châtillon il y a quelques semaines, quand on envoie un message que brûler un policier, c'est 18 ans ferme sans les remises de peine, parce que maintenant il y a des remises de peine automatiques, C'est quoi le message? C'est quoi le message? Alors maintenant, ça va aller crescendo, et je tiens à apporter une précision et à vous le dire, la situation dans les banlieues est gravissime. Il faut que les gouvernants se bougent, parce que combien de fois on a entendu ce discours, gendarmerie qui dit « je me déplace, je condamne, je me déplace sur les lieux, je condamne », mais maintenant on va pouvoir passer aux actes. Aux actes, parce que sinon il va y avoir encore des morts et la situation va être incontrôlable. J'étais, je sais pas si vous avez entendu parler, dans 91, il y a deux jours, il y a eu des grosses violences urbaines,
oui.
Après l'interpellation d'un dealer. J'y étais. Il a fallu que tout le département pratiquement se déplace pour gérer la situation dans une seule cité. Une seule. Je vous laisse imaginer la suite si toutes les cités s'embrasent. Donc maintenant, il va falloir arrêter de condamner, il va falloir réagir. Parce que la situation est gravissime. Et on ne peut plus supporter que nos gouvernants soient toujours dans la communication, parce que c'est bien beau de nous filer des voitures toutes neuves si on ne nous donne pas des moyens matériels et surtout légaux. Voilà, en matière juridique pour intervenir, la situation va devenir incontrôlable.
Non mais Julien, merci de ce témoignage, on comprend parfaitement. Alors ce qu'on disait aussi avec Quatennens tout à l'heure, c'est que lui, et on l'évoquait hier, alors il y a, pour le cannabis, il faudrait peut-être légaliser, alors je ne sais pas, parce que ça, il y a toujours en fait un débat, et ce sera un débat de la présidentielle, pour éviter effectivement qu'il y ait trop de trafic, cela dit, ça risque de se déporter peut-être ailleurs, c'est ça, c'est l'un des dangers. Merci, il est 9h, on est un petit peu en retard, merci Françoise Degois, Éric Revel, et vous, Julien, au 0826-300-300, vous continuez de réagir. On en reparlera dans un instant et on reviendra aussi sur ce qui s'est passé du côté de Mérignac.
Restez avec nous tout de suite. On fait un point sur l'actu à 9h.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Il est 9h07, c'est la suite du petit déjeuner de l'actu. Comment la police peut-elle faire face au trafic de drogue dans certains quartiers? Et ce matin, pour en parler avec nous, Bruno Bartozzetti, bonjour. Vous êtes délégué régional du syndicat FGP Police Force Ouvrière pour la zone Sud-Occitanie.
Oui, alors après ce drame en fait d'hier, hein, Bruno Bartozzetti, merci d'être avec nous. Ce matin, avec un petit peu de recul par rapport à ce qui s'est passé en fait hier, et donc je sais que vous allez rendre hommage donc à ce policier qui a été tué, mais vous dites quoi? Parce que là, il y a une rencontre de nouveau avec Gérald Darmanin. Il nous faut peut-être des directives plus claires ou alors des moyens ou peut-être légaliser le cannabis. Qu'est-ce que vous dites?
Alors, bien sûr, nous sommes encore dans l'émotion et les propos qui ont été tenus par le ministre de l'Intérieur, ce sont les propos qui sont tenus par l'ensemble de la population, à part les voyous, les décérébrés, quelques idéologistes, comme Mélenchon. Mais sinon, la population est bien sûr est derrière nous. Alors, en matière de moyens, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que ce sont des moyens sociétaux qu'il nous faut, et puis peut-être aussi donner des moyens à la justice de fonctionner et de réprimer sévèrement ceux qui s'en prennent aux forces de l'ordre, parce que vous savez, ce policier qui s'est fait tirer dessus, et qui a été mortellement blessé, c'est fréquemment qu'on nous tire dessus, malheureusement, et on est pris pour cible, c'est-à-dire que même si on nous donne beaucoup plus de moyens dans la police pour intervenir, nous sommes également exposés lorsqu'on intervient sur des perturbateurs, car au départ c'était la mission première de cette équipe de police. Donc les moyens, il faut se les donner en France, non pas pour rendre hommage et donner une médaille à titre posthume, mais pour, sur du long terme, répondre efficacement à l'endroit de ces voyous qui se sentent impunis, et si on considère que le policier est provocateur parce qu'il porte une tenue, et si on banalise ne serait-ce que les crachats et les insultes faits à l'endroit des policiers, c'est sûr que ça ne sortira pas.
Oui, et parce que les dealers eux-mêmes n'ont plus peur véritablement de la police ou des forces de l'ordre. Je voyais à Montpellier, il y a quelques jours, il y avait eu une visite d'Emmanuel Macron sur place, qu'il y avait un point de deal qui avait été démantelé avant la venue du président de la République, et aussitôt reparti, le point de deal était reconstitué quasiment au même endroit. C'est-à-dire que finalement, ça ne leur fait pas peur, quoi.
Mais bien sûr, sûr, puisqu'on n'apporte pas des réponses pénales adaptées, on ne travaille pas sur le blanchiment d'argent de manière suffisante. Lorsque vous démantelez un réseau, bien le même se reconstruit à côté. Vous parliez de légaliser éventuellement
le cannabis, oui, parce que c'est dans le débat en fait du moment. Quoi.
Ben ouais, mais entre nous. Vous croyez que le dealer va pointer à la NPE si on légalise, il trouvera les moyens pour vendre des drogues plus cher ou moins cher et plus dur. Donc c'est un échec total. Il faut, avant de parler de légalisation ou de dépénalisation, avant de pouvoir se coller à certains pays qui ont trouvé des solutions, déjà nous sachons tenir le système. Ça voudrait dire que l'État deviendrait le dealer des acheteurs de cannabis. Non, ça me semble, c'est quand même... Pour des raisons politiques, ça me semble très dangereux de partir trop rapidement.
Bon, ça dit, il y a bien le tabac d'un côté et puis l'alcool où il y a des taxes aussi, quoi. Alors, mais bon, c'est peut-être un autre débat, hein, Bruno Bartocchetti.
Ce qui n'empêche pas la contrebande des cigarettes.
Bien sûr, bien sûr. Bruno Bartocchetti, est-ce que, en termes aussi de moyens, est-ce qu'il y a des choses assez simples qu'il vous faudrait, comme par exemple des gilets pare-balles quand vous intervenez sur des points de deal? Est-ce que c'est le cas ou pas déjà?
Oui, c'est le cas, ça ne nous empêche pas d'être touchés dans l'exercice de nos fonctions. Moi, je crois que déjà, la première des choses, ce serait aussi d'intervenir systématiquement à 3 policiers. Vous avez encore des équipages à 2 policiers par voiture. C'est très dangereux d'intervenir dans ces conditions. Alors, ça demande le recrutement, de la formation, ça demande du temps, mais surtout, il faut répondre efficacement sur ce thème et non pas pour des raisons seulement électorales.
Oui. Mais on voit que c'est les armes qui portent un préjudice, en tout cas, c'est un gros problème. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen de démanteler justement ces trafics d'armes?
Voilà, vous mettez le point sur quelque chose de très important, c'est que nous parlons de trafic de stupéfiants, et ces mêmes dealers sont dans les trafics d'armes, et notamment avec des kalachnikovs dans la plupart du temps. Bien évidemment, là aussi, il y a un travail qui doit être fait bien en amont, c'est-à-dire empêcher peut-être de voir entrer ces armes sur notre territoire national, ainsi que la drogue, et puis après, par la suite, je vais parler du blanchiment, et si vous imaginez... Mais vous imaginez ce que ça entraîne quand on voit, je ne suis pas un économiste, mais quand on voit qu'on parle de vente de drogue dans le PIB en France, ça devient grave quand même.
Oui. Gérald Darmanin avait dit il y a quelques semaines, il faut absolument démanteler et s'attaquer à tous les points de deal. Il y avait eu des cartes de recensement de points de deal dans certaines villes, dans certains départements. J'ai le souvenir de Marseille, par exemple, avec des chiffres assez édifiants. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une pression de plus en plus forte pour vous, policiers sur le terrain, pour que vous alliez vous attaquer à ces points de deal?
Alors, nous les connaissons, ces points de deal, mais lorsqu'on demande des résultats en l'espace de 2-3 mois, et lorsqu'on demande aux magistrats aussi des résultats en l'espace de 2-3 mois, c'est insuffisant. Laissons-nous travailler sur la durée qu'il faut pour faire tomber ce qu'on appelle un lieutenant. Voilà, là, vous cassez le système. Maintenant, si vous cassez un mini-réseau, le lieutenant, comme on l'appelle en matière de stup, eh bien, il va reconstruire son réseau. Oui. Et voilà, lui, c'est une agence d'emploi. Il y aura toujours un guetteur qui prendra du grade et qui deviendra leader.
Mais quid des réseaux sociaux aussi? Parce que par le biais des réseaux sociaux, il se passe beaucoup de deals aussi.
Ah ben oui, tout simplement parce que maintenant les ventes se font. Vous savez, je dis souvent, on parle des cités en matière de stupéfiants, maintenant ce sont des sites de vente. Là, vous connaissez le sujet, vous avez l'Uber Sheet, donc les ventes de stupéfiants se font partout sur le territoire national et pas seulement dans les cités. Donc c'est vrai qu'on est gangréné et quand on parle de 4000 points de deal, c'est certainement au-delà. De toute façon, ils se reconstruisent très très vite.
Merci beaucoup Bruno Bartocchetti, directeur régional du syndicat SGP FO pour la zone Sud-Occitanie, d'avoir été avec nous ce matin en direct sur Sud Radio.
Et on revient sur ce dramatique féminicide à Mérignac. Une femme de 31 ans, mère de 3 enfants, est morte, blessée par balle, puis brûlée vive par son ex-conjoint. Avec nous pour en parler, Christine Bouillot. Bonjour Christine.
Oui, bonjour Christine.
Bonjour Patrick, bonjour Cécile. Ouais,
on a entendu votre reportage ce matin. Ce qui est assez alarmant en fait dans cette histoire, c'est que les voisins disaient qu'elle était, elle les avait prévenus que son compagnon pouvait revenir, Mounir, hein,
et que
qu'il la harcelait, etc. Alors que lui était sorti de prison. Alors il ne faisait pas l'objet du port d'un bracelet puisque quand il était sorti de prison, il n'y avait pas eu. Mais elle était pourtant allée porter plainte. Il y a de cela quelques jours, et donc peut-être qu'il y aurait pu avoir un meilleur suivi judiciaire et policier, non ?
En fait, c'est très tristement la chronique hein, d'une mort annoncée d'un mari violent qui décide d'en finir avec son épouse, hein, parce qu'elle avait décidé et eu le courage de vouloir le quitter. Hein. Ils étaient toujours mariés, le divorce n'avait pas été prononcé, mais effectivement, dans la chronologie, donc au mois de juin, il est condamné et il va directement en prison pour 9 mois de détention pour ses violences conjugales. Il ressort au mois de septembre et au mois de mars dernier, donc vraiment, on est très peu de temps après, c'est là qu'elle dépose plainte pour violence. Et à ce moment-là, il fait l'objet d'un avis de recherche. Hein. Visiblement, les policiers du côté de Talence recherchaient le mari violent. Et le 4 mai dernier, eh bien, c'est-à-dire mardi, il passe à l'acte et visiblement, il l'espionnait, il traquait son épouse. Alors, l'histoire du bracelet en anti-rapprochement, ben, en fait, la justice n'a pas pu lui infliger puisqu'à ce moment-là, au moment où il est condamné l'été dernier, le dispositif n'existe pas. Voilà, donc, n'est pas encore mis en place. Donc, il ne peut pas en faire l'objet. Quant au téléphone grave danger, vous savez, le nouvel outil d'Arsenal qui fait partie du dispositif pour essayer de sauver ces femmes qui, tout d'un coup, sont prises au piège par leurs compagnons, par leurs conjoints, eh bien, il n'y en a que 5 sur le département de la Gironde, c'est beaucoup trop peu. Donc, il y a effectivement des trous dans la raquette, comme disent les associations féministes hier soir, notamment, est-ce qu'on aurait pu effectivement mettre une protection sur cette mère de famille, comme par exemple l'installer dans un logement sécurisé, inconnu de la famille, mais c'est très compliqué parce que cette maman, elle vit dans ce quartier, elle a toutes ses amies, elle a surtout l'école de ses enfants, les points de repère de ses enfants, et beaucoup de personnes l'avaient mise en garde, mais elle ne voulait pas déménager, elle ne voulait pas se mettre en sécurité. Et puis l'autre point que dénoncent aussi toutes les associations féministes, hein, est-ce qu'on ne peut pas aussi se pencher sur le suivi psychologique, l'obligation psychologique, ou la façon de gérer ces maris violents qui sont identifiés comme tels, qui sont déjà passés à l'acte, parce que là aussi il y a véritablement un travail à effectuer.
Bah, oui, bon. Oui, c'est ça, parce que il était quand même connu quoi, des services de police. C'est pas comme si ce n'était quelqu'un qui est passé à l'acte comme ça du jour au lendemain. Sa condamnation, Christine, c'est vrai qu'il a été condamné à 18 mois de prison, dont 9 mois, donc à sortie d'un sursis probatoire de 2 ans. Mais il est ressorti assez vite, quoi. Il est condamné en juin, il est ressorti. Alors c'est parce qu'il avait probablement fait de la préventive, quoi.
Sans doute, parce qu'il y a eu un mandat de dépôt à l'audience, donc ce qui est une décision assez rare hein, pour des violences conjugales. Il y avait aussi des problèmes d'addiction, donc certainement un casier judiciaire défavorable comme disent les policiers. Mais ce qui est certain, c'est que à ce moment-là, il aurait pu y avoir une conjonction de décisions en sachant qu'au moment où on décide sa remise en liberté, on sait qu'il peut être dangereux et donc effectivement travailler avec Shaïnaz, avec son épouse, pour savoir comment elle la mettre en sécurité. Et puis il y a toute une forme aussi d'emprise. Le nombre de témoignages, je peux vous dire, Patrick et Cécile, de riverains, d'amis de la victime hier que j'ai recueillis et qui disent elle se savait en danger, on lui disait de se mettre en sécurité, de ne pas ouvrir. La voisine directe, hein, qui a tout vu hier après-midi, mardi après-midi.
Tout vu et qui n'a pas pu intervenir, quoi, bien sûr, puisque c'est allé assez vite.
L'homme était armé jusqu'aux dents, il était dans la rue, il tirait sur tout ce qui bougeait, il avait décidé effectivement de régler son... C'est véritablement une mise à mort hein, pour cette femme. Oui. Elle n'avait absolument aucun moyen de s'en échapper. Visiblement, il l'attendait. On pense que c'est au moment où elle partait chercher ses enfants au centre de loisirs eh bien, qu'il est entré dans la maison et qu'il est intervenu très très vite. Les faits ont duré moins d'une demi-heure, une vingtaine de minutes, et en 20 minutes, il lui avait tiré dessus, il l'a aspergé d'essence, elle a essayé de s'enfuir dans la rue, et elle est morte quelques mètres plus loin, brûlée vive.
Quelle horreur, évidemment. Donc, et il a été, Mounir, là, il a été interpellé, hein, quoi, juste après.
Il doit être présenté au juge aujourd'hui, avec une enquête pour assassinat, ce qui veut dire qu'il y a préméditation, et donc il encourt la réclusion criminelle à perpétuité.
Shaïnaz, donc, qui avait 31 ans, maire de de trois enfants, trois pauvres enfants. Bambins, hein, donc ouais. Aussi.
C'était terrible. Vraiment, on était tous journalistes, riverains inconnus, les élus, le maire de Mérignac, hein, qui est quand même un élu qui a une certaine expérience. Il est président du Grand Bordeaux. Hier, était en larmes et prenait ses enfants, ses petits enfants qui connaissaient la victime, puisque il venait jouer avec ses enfants dans la maison. Ils se voyaient au centre de loisirs. Ils étaient littéralement sous le choc. Une cellule psychologique a été mise en place. Et des fois, on se demande à quoi ça peut servir. Ben, je peux vous dire.
Justement, j'allais vous demander, est-ce que ça va créer un déclic, vous pensez? Est-ce que, parce que là, la violence et la terreur de ce crime abominable, est-ce que ça va créer quelque chose? Un précédent, enfin?
J'ai envie de vous dire, Cécile, beaucoup l'espèrent, parce que abattre, enfin en tous les cas, éliminer son épouse, sa conjointe par le feu, il y a un symbole très fort. Hein, y a des femmes meurent sous les coups de leur compagnon, mais là, il y a la volonté véritablement d'effacer. Il a brûlé la maison, il a brûlé son épouse, la mère de son enfant. Donc véritablement, il y a vraiment un électrochoc de l'acte en lui-même. Il y a vraiment une volonté de réveiller. Si l'an dernier, les féminicides ont légèrement baissé dans les statistiques, là, tout le monde dit ça repart à la hausse, il se passe quelque chose. Donc, voilà, la vigilance est dangereuse.
C'est vrai, c'est vrai. Alors, c'est de la violence conjugale, mais enfin, c'est plus que ça, quand même, parce que là, c'est terrible. Bah là, quoi. C'est pas au sein, en fait, du couple où ils étaient ensemble, etc., puisqu'ils n'étaient plus là. Quoi.
C'est prémédité. Il y a un véritable délire. Ça a dû ruminer, en plus, à l'heure.
Ouais. Merci beaucoup, Christine Bouillot. Donc, voilà. Il y a eu une marche blanche spontanée, en fait, hier, hein, c'est ça, un petit rassemblement. Il y en a une nouvelle de prévue ou pas, Christine ?
Pour l'instant, non, mais ce qui est certain, c'est qu'il y aura effectivement une vigilance accrue. Oui. Du côté des élus aussi, de la commune de Mérignac, qui est une ville très tranquille du côté de Bordeaux, enfin en périphérie de Bordeaux, là aussi on s'interroge sur comment se rapprocher, en tous les cas déjà digérer, faire passer cette période d'émotion, très forte émotion, très vive émotion dans le quartier, et puis derrière aussi comment mieux protéger, surveiller ou en tous les cas accompagner ces femmes qui font le geste déjà de se déclarer victime ou en tous les cas de se déclarer en danger, comment mieux les appréhender. Il y aura certainement un focus et d'autres actions qui seront menées dans les prochaines semaines.
Merci Christine Bouillot d'avoir été avec nous et on y reviendra bien sûr.
Dans un instant, on va revenir sur la place du religieux au sein de l'humanité. André Malraux avait dit le 21e siècle sera religieux ou pas. Et ben, on verra s'il était visionnaire avec ce livre, le 21e siècle du christianisme, avec Dominique Régnier qui sera avec nous tout à l'heure. À tout de suite.